Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe en direct du studio 1 de RFI. L'Europe prise dans le vertige des crises des années 2020. Une émission avec nos partenaires du Grand Continent, la revue européenne qui sort son premier volume papier chez Gallimard. Politique de l'interrègne, Chine, pandémie, climat. À ça, nous ajoutons désormais la guerre en Ukraine. Et c'est Matteo Malik, rédacteur en chef du Grand Continent et co-signataire de l'introduction de ce volume avec Gilles Gressani, qui est en notre compagnie aujourd'hui pour accueillir Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen chargé du commerce et aujourd'hui coordinateur des instituts Jacques Delors de Paris, de Bruxelles et de Berlin. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Pascal Lamy, vous êtes en ligne finalement, pas en notre compagnie dans le studio, pour des raisons de Covid, on peut le dire peut-être. L'invasion de l'Ukraine est un choc qui ébranle le monde entier. Face à ce choc, l'Europe, le camp occidental reste quant à lui uni. Il y a des sanctions, des livraisons d'armes, l'accueil des réfugiés, mais rien de tout cela n'arrête Vladimir Poutine. Alors Pascal Lamy, est-ce qu'il ne faut pas faire davantage ?
Oui, ça, je pense que nous sommes à un moment où nous n'avons pas arrêté l'invasion que Poutine a décidée en Ukraine. Il n'a pas reculé, il cesse d'avancer apparemment, sauf dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine. Et donc, notre principal moyen d'action sur la Russie de M. Poutine sont des sanctions économiques, et je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller plus loin en acceptant, et je reconnais que ça n'est pas facile, surtout pour nos amis allemands, en acceptant un embargo sur le pétrole et le gaz russe. La guerre coûte à la Russie 1 milliard d'euros par jour. Nous finançons aujourd'hui les 2/3 de ce milliard d'euros en continuant à acheter du gaz et du pétrole à la Russie. Je trouve que du point de vue éthique, ceci n'est pas rationnel. Je ne dis pas qu'on peut facilement se sevrer de ces hydrocarbures russes, dont l'Europe est très dépendante. Mais je pense que, même si c'est difficile, il y a des moments où il faut accepter de faire des choses difficiles pour éviter le pire.
Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent un petit peu ces derniers jours sur ce sujet ?
Je pense que les lignes bougent un peu sur le pétrole. Je ne suis pas sûr qu'elles bougent vraiment sur le gaz, étant entendu que tout ceci repose la question de la trajectoire de décarbonation européenne et du passage progressif aux énergies renouvelables, sans doute faudra-t-il accélérer, c'est-à-dire investir, c'est-à-dire aller plus loin que jusqu'à présent. Nous l'avons fait aussi bien à l'échéance 2050 qu'à l'échéance 2030. On peut considérer que l'Europe est déjà en avance sur d'autres régions du monde, ce qui est absolument vrai. Je pense que ce qui se passe en Ukraine nous montre que nous avons maintenant une raison de plus qu'avant d'essayer de nous sevrer des énergies fossiles.
On va en reparler longuement avec Matteo Malik du Grand Continent qui est en notre compagnie.
Merci beaucoup. Effectivement, cette crise, vous l'avez dit, nous plonge dans un monde de moins en moins compréhensible, dans cette réalité qu'on peine à saisir, qu'on peine à capter. Et nous, c'est dans ce contexte au Grand Continent qu'on essaye quotidiennement d'enrichir les questions du contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée. En tout cas, on essaye aux singularités de cet environnement européen. Et c'est en donnant la parole à des personnalités issues du monde scientifique, politique, culturel, qu'on propose de faire émerger finalement un critère pour envisager ces questions à la bonne échelle, à l'échelle pertinente. Et la méthode pour y parvenir, dans cette temporalité un peu éclatée, hors de seconde de nos années 2020, c'est d'articuler le temps du tweet au temps du livre. Et donc ce mois-ci, vous l'évoquiez, nous présentons notre premier volume papier, Politique de l'interrègne, paru aux éditions Gallimard ce jeudi. C'est la sédimentation du travail de la revue qui tente d'ouvrir des chantiers structurants pour cette décennie et de tracer une carte pour essayer finalement de fixer ces vertiges des années 20. Alors effectivement, la pandémie avait ouvert une séquence de bouleversements globaux, un interrègne dans lequel on voyait se dessiner des tendances lourdes, mais qui finalement restait un règne de l'incertitude. Et ma première question finalement à Pascal Lamy serait celle-ci. Avec la guerre en Ukraine qui ajoute de l'incertitude à l'incertitude, est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes en train de changer d'air, de basculer dans une nouvelle époque?
Peut-être. J'ai toujours eu tendance à me méfier des moments qu'on qualifie de changement de paradigme. Comme si il y avait un moment où on est dans un monde ancien, et puis tout à coup, paf, on rentre dans un monde nouveau, et évidemment, il est très important, et très intéressant, et très stimulant d'essayer d'imaginer ce que serait ce monde nouveau. J'ai un peu le syndrome de Fabrice à Waterloo, je voudrais être sûr du moment auquel une bascule se fait. Je crois que dans la situation actuelle, il y a des choses qui vont changer. La plupart, de mon point de vue, étaient déjà en train de changer. C'est une inflexion, c'est une accélération. Mais pour être tout à fait franc dans ma réponse, je pense que ça dépendra beaucoup du résultat, de l'épreuve que l'Ukraine est en train de vivre et que, au fond, c'est le contour du monde d'après. Dépendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de la manière dont finalement, et du moment où les Russes finiront par reculer. Mais disons, vous avez raison, en tout cas, ce qui est parfaitement vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis toujours intéressé au Grand Continent, parce que je trouve qu'il y a dans vos intentions et dans la manière de faire ce que vous faites très bien, d'ailleurs en général, il y a quelque chose de très delorien, c'est-à-dire une espèce de responsabilité qu'on confère à certaines personnes ou que certaines personnes se confèrent à elles-mêmes pour essayer d'expliquer, hein, pour essayer de fournir à l'opinion des clés, des comparaisons, des schémas, des éléments qui permettent de sortir de cette espèce de gloubi-boulga de la télé permanente ou de la radio permanente où des soi-disant spécialistes débarquent. Et on a vu ça au moment du Covid et on voit ça amplement à l'occasion de la guerre en Ukraine. Je crois qu'il faut savoir prendre du recul. Alors, en ce moment, ce qui se passe dépendra de ce qui se passe, dépendra probablement une grande partie de l'animation géopolitique du monde de demain, qui restera, je crois, très fortement marquée et animée par la rivalité sino-américaine. Mais ce qui va se passer de cette rivalité sino-américaine dans l'affaire ukrainienne, beaucoup de choses pourront dépendre.
Eh bien, nous allons aller en Ukraine, justement épicentre de ce monde en changement. Nous retrouvons Vincent Souriau, l'un de nos envoyés spéciaux à Kiev. La soumission ou l'exode, voilà l'alternative que les forces russes semblent vouloir imposer en Ukraine. Vincent, et ce qui est très frappant depuis la capitale ukrainienne, ce sont ces immenses déplacements de population qui se déroulent actuellement.
Oui, Juliette, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais comme on le sait, l'Ukraine se vide de ses habitants qui sont en train de fuir la guerre. Bien sûr, il y a les réfugiés, ceux qui ont quitté le pays. Ils sont déjà plus de 3,5 millions. Quasiment 10% de la population de l'Ukraine est partie aujourd'hui. Mais la masse la plus importante de ces déplacements, elle se déroule à l'intérieur du territoire ukrainien, avec un mouvement considérable de l'est et du nord vers l'ouest de l'Ukraine. Les civils abandonnent la périphérie de la mer d'Azov, ils abandonnent les contours du Donbass, ils abandonnent la région de Kiev aussi pour rejoindre Lviv, pour se rapprocher de l'Europe et de la frontière polonaise. Et tout cela crée un vide que Vladimir Poutine a très envie de combler visiblement à la manière de ce qui a été fait en 2014 avec les républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk. Ce que l'on voit aujourd'hui dans ces zones conquises par la Russie et en particulier autour de la ville de Kherson dans le sud-est de l'Ukraine, c'est que les Russes essayent de forcer la mise en place d'un référendum d'autodétermination. Ils veulent légitimer par un scrutin fantoche leur incursion militaire et s'incruster pour de bon dans ces territoires en faisant pression sur les élus locaux, en enlevant les maires de certaines communes qui s'opposent à l'occupation, en réprimant aussi les manifestations. Car en réalité, il semble que le monde d'après, côté russe, c'est le monde d'avant, le monde où les Ukrainiens proclament leur amour de la Russie ou font serment d'allégeance à Vladimir Poutine. En gros, la Russie, tu l'aimes et tu lui dis, ou bien tu quittes ta région. Il se trouve que cette rhétorique a fonctionné pour une partie de la population du Donbass en 2014, qui est restée au moment où les séparatistes sont arrivés, parce qu'il y avait dans cette région du Donbass une frange de citoyens plus russophiles que les autres. Mais le véritable drame aujourd'hui, c'est que tous les Ukrainiens ici nous le disent. Oui, nous avons du sang russe, de la famille en Russie, nous parlons russe, c'est leur langue maternelle, hein, tout le monde est bilingue ici. Mais le sentiment national ukrainien est beaucoup plus fort aujourd'hui, depuis 2014, paradoxalement, parce que Poutine s'est marché sur les pieds d'une certaine manière en soutenant les séparatistes. Et aujourd'hui, pour imposer sa nouvelle géographie, il va devoir gagner les cœurs et les esprits, comme disaient les Américains à Bagdad, mais tout indique, Juliette, que les Russes, dans ces régions, vont faire face à une résistance civile, à une résistance culturelle et politique à laquelle ils ne s'attendaient pas.
Vincent Souriot, envoyé spécial de RFI à Kiev. Pascal Lamy, vous avez négocié, vous, avec Vladimir Poutine, l'adhésion de la Russie à l'OMC quand vous étiez directeur général de l'Organisation mondiale du commerce?
Oui, j'ai même négocié avec lui personnellement, quand j'étais commissaire européen, un deal d'accession de la Russie à l'OMC, qui ne s'est produit que 8 ans plus tard, parce qu'entre-temps, les Américains ont bloqué, mais nous nous étions mis d'accord sur les termes, le prix d'entrée de la Russie à l'OMC, en contrepartie, d'une part, de la ratification du protocole de Kyoto par la Russie. C'était un élément très important à l'époque, parce que le protocole de Kyoto, qui a été le premier grand accord international sur l'environnement, ne rentrait pas en vigueur sans ne le rejoigne. C'est le cas d'un certain nombre de traités internationaux. Il faut un minimum de signatures pour qu'il rentre en vigueur. Et par ailleurs, nous avions, et je le rappelle souvent, nous avions mis d'accord sur l'idée dans le futur, et on allait commencer à y travailler, une zone de libre-échange serait établie entre la Russie et l'Union européenne, compte tenu du fait que c'est évident que nos économies étaient et restent en grande partie complémentaires. Les Russes produisent des choses que nous n'avons pas, et nous produisons des choses que les Russes n'ont pas. C'était il y a 20 ans, c'est dire que le monde poutinien a totalement changé. Il se trouve que j'ai aussi d'ailleurs aidé l'Ukraine à rentrer à l'OMC, mais quand j'étais directeur général. Et je dois dire que ce que je viens d'entendre me parle, parce que l'Ukraine que j'ai connue à l'époque, donc c'était il y a, disons, 10-15 ans, n'est pas du tout l'Ukraine d'aujourd'hui. L'Ukraine que j'ai connue à l'époque, c'était franchement un peu le bazar, les gens n'étaient pas d'accord, c'était très difficile de savoir ce qu'ils voulaient, et entre eux, ils étaient toujours sur des positions différentes. Je trouve que l'Ukraine d'aujourd'hui, celle qu'on voit, celle dont votre correspondant vient de parler, est une Ukraine différente. Je crois que Poutine est en train de donner à ce pays le caractère d'une nation dans l'épreuve. Et je trouve que ce phénomène, en lui-même intéressant, on aurait pu souhaiter que ça se passe avec, dans d'autres circonstances, sans les quelques milliers de soldats qui meurent de chaque côté, sans tous les civils qui se font bombarder, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, de l'ordre de l'histoire. Hein, et c'est, pour l'Ukraine, je pense que c'est vraiment un moment de bascule.
Et concernant Vladimir Poutine, est-ce que le Vladimir Poutine d'aujourd'hui est très différent de celui que vous avez côtoyé il y a une vingtaine d'années ?
Totalement. De mon point de vue, totalement. Son logiciel, ce qu'il a dans la tête pour prendre ses décisions, la représentation, la Weltanschauung qu'il a, la représentation du monde qu'il a, est totalement différente. Il a basculé. En tout cas, pour ce que j'ai pu en juger, il a basculé d'un tsar qui s'intéressait fortement à l'Europe et à ce qui s'est passé, comme un certain nombre de ses prédécesseurs d'ailleurs, vers une espèce de sentiment qu'il est enfermé dans ce qui reste de la civilisation occidentale, étant entendu que le reste du monde est en train de sombrer dans un libéralisme épouvantablement destructeur, il y a là un changement mental, en quelque sorte, comme si, quand j'écoute, et notamment dans ce discours qu'il a fait à la veille de l'invasion, dont d'ailleurs c'est le grand continent a fourni la traduction très très rapidement, ce qui était très important pour comprendre ses motivations, j'ai vraiment l'impression qu'il est dans un autre monde, et quelque part ailleurs que dans le monde de la réalité.
On va parler de la Chine et des États-Unis, de cette rivalité qui structure le monde. C'est le titre de la première partie de la revue du Grand Continent, Politique de l'Interrègne, publiée chez Gallimard. Dans l'affrontement Chine-USA, la Russie n'était pas destinée à occuper cette place qu'elle occupe désormais. On va en parler avec vous, Pascal Lamy, de ce partenaire chinois. L'Union européenne est bien consciente qu'il faut désamorcer les tensions, briser la glace. Elle organise vendredi prochain, le 1er avril, un sommet UE-Chine. Mais d'abord, je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie chinoise. C'était le 7 mars dernier.
Le développement des relations sino-russes s'inscrit dans une logique historique claire, avec une forte dynamique interne. L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc. Et les perspectives de coopération entre les deux parties sont immenses.
Une amitié solide comme un roc entre la Chine et la Russie. Vous avez entendu Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. C'était le 7 mars dernier, donc après le début de la guerre en Ukraine. En ligne, notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juliette.
Il y a donc ce sommet Chine-Europe la semaine prochaine. Et la question que se pose l'Europe, qui se pose pour l'Europe, c'est est-ce que l'invasion russe ne met pas à l'épreuve le lien entre Moscou et Pékin ?
Alors je crains de vous décevoir, Juliette, mais je ne crois pas et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord en rappelant que les dirigeants chinois ont mis plus d'une semaine à arrêter leur position. On n'emploie toujours pas les mots guerre et invasion. Ici, la propagande chinoise reprend les termes russes d'opération militaire spéciale, mais de nombreux dirigeants ont répété cette phrase depuis le début du conflit. Nous ne voulons pas voir ce qui se passe en Ukraine. Ils ne voulaient pas voir cette opération spéciale donc de Poutine, qui a pour principal défaut de rapprocher les Européens des États-Unis. Poutine, c'est mec NATO great again, si on peut dire, et concernant l'OTAN, les Chinois sont comme les Russes, ils n'en veulent pas.
Alors Stéphane, pensez-vous que le partenariat sino-russe est illimité ? Je crois que c'est le terme qui a été employé.
Oui, un terme très fort inscrit dans la déclaration conjointe signée par Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin. C'était le 4 février dernier. Xi et Poutine se sont vus 40 fois en tête à tête. Les deux hommes s'entendent bien selon les médias d'État. Pourquoi ? Parce que tout simplement les deux dirigeants ont un rêve commun, celui d'un nouvel ordre mondial qui ne soit plus celui des États-Unis et des démocraties. On a entendu par exemple Sergueï Lavrov récemment lancer des invitations pour une conférence contre le fascisme. Cet été en Russie, Pékin comme Moscou avaient vivement dénoncé le sommet pour la démocratie de Biden l'année dernière. Sur le plan des liberté. Même chose, l'Internet souverain, la censure, les arrestations d'opposants, tout ça a été mis en place par Poutine ces derniers jours et connu des Chinois depuis longtemps. Pour Xi Jinping comme pour les dirigeants chinois, le cauchemar, c'est que le clan Poutine tombe. Ils ne veulent pas d'une Russie démocratique à leur porte. Et puis c'est très important, c'est même la clé du rôle de la Chine ici. Juliette, Pékin voit cette guerre en Ukraine au travers de son bras de fer avec les États-Unis. La Russie est un allié important pour Pékin dans cette bataille avec les Américains pour la place de première puissance.
Est-ce que la Chine est prête pour autant à une nouvelle guerre froide avec l'Occident ? Avant de vous redonner le micro, Stéphane, je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. C'était il y a quelques jours sur une chaîne américaine.
Pourquoi ne condamnez-vous pas cette invasion ?
Ne soyez pas naïfs. Condamner seulement ne sert pas. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'une bonne diplomatie. La Chine a de bonnes relations avec la Russie et avec l'Ukraine, et la Chine est en contact étroit avec les États-Unis et avec l'Europe, ce qui permet à la Chine de parler à toutes les parties concernées dans cette crise.
All parties concerned in the crisis. Alors on l'entend, l'ambassadeur parle de crise, pas de guerre. Stéphane, la Chine pourrait être médiatrice pour obtenir la paix ?
La position de la Chine est unique. Juliette, d'une certaine manière, elle observe les choses de l'autre côté de la rive. En même temps, elle ne peut pas rester en simple observatrice si elle veut jouer ce rôle de leader auquel elle aspire pour desserrer l'étau de l'Occident qui lui demande de choisir son camp et si possible de ne pas rester du côté de l'agresseur, donc de condamner la Russie, ce que l'État parti ne veut pas faire. Je vous ai dit pourquoi. La Chine montre qu'elle n'est pas isolée. Elle s'est tournée vers les pays des BRI, les nouvelles routes de la soie chinoise et des BRICS, les émergents, qui se sont tous abstenus lors du vote de la résolution de l'ONU. Il y a eu cette semaine la tournée de Wang Yi en Asie du Sud, sans parler des liens avec les pays du Golfe aussi, et puis l'Afrique. J'ajoute, c'est important que la déclaration conjointe sino-russe du 4 février n'est pas non plus le pacte Ribbentrop-Molotov. C'est un partenariat très fort, mais ce n'est pas une alliance, disent les Chinois, qui restent dans le cadre des règles internationales. Ils respectent notamment la souveraineté des États. Le maître mot aujourd'hui en Chine, c'est la stabilité. On attend le 20e congrès du PCC prévu à l'automne. C'est un rendez-vous politique important pour le président chinois et le parti. La Chine aimerait donc un retour au statu quo, au plus tôt. La Crimée, le statut de neutralité de l'Ukraine, peut-être pour calmer Poutine avec une Russie plus dépendante de Pékin. Elle a pris conscience, en tout cas, de la fermeté de l'Europe attaquée sur son flanc oriental. Elle ne veut pas d'un retour au rideau de fer et donc pourrait jouer cette carte de la médiation et gagner sur tous les tableaux, hein, d'une certaine manière, en tentant de se rapprocher de l'Europe. Sous réserve quand même des valeurs dont je vous ai parlé, le risque, c'est que ce soit en échange de concessions dont ne veulent pas les Européens.
Stéphane Lagarde, envoyé spécial permanent à Pékin de RFI. Pascal Lamy, est-ce que la Chine pourrait être un bon médiateur dans cette crise, dans cette guerre ?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'alliance actuelle entre la Chine et la Russie n'est pas vraiment une alliance stratégique, mais c'est une alliance narrative. Ils ont, en commun, adopté un narratif anti-américain, voire anti-occidental, et c'est là d'ailleurs que les questions européennes rentrent en jeu. Je crois que la Chine louvoie cette espèce de neutralité positive en faveur de la Russie. Je ne serais pas très étonné que la Chine aide un peu la Russie à faire tourner son économie qui est très, très, très malmenée par les sanctions. Je ne crois pas pour autant que, par exemple, la Russie donnera des armes à la Russie. Quand
la Chine donnera des armes à la Russie.
Les enquêtes furent. Absolument, je ne crois pas. Si vous voulez, si je veux résumer la position chinoise, vous savez que les Chinois aiment bien les proverbes. Et d'ailleurs, Xi Jinping, dans sa dernière conversation avec Biden, on a cité un, que je vais reprendre, et je vais en citer deux. Ce que Xi Jinping a dit à Biden, c'est à celui qui accroche la cloche à la queue du tigre d'aller la décrocher. Alors, le tigre, c'est la Russie. La cloche, c'est l'OTAN. Et donc, c'est parce que l'OTAN en veut à la Russie que la position chinoise et russe est rationnelle. Et donc, aux Américains d'aller décrocher la queue de l'OTAN qu'ils ont accrochée au tigre russe. Ça, c'est la première analogie, premier symbole. Et le deuxième, qui est aussi un proverbe chinois, que Xi Jinping n'a pas cité cette fois-ci, est le proverbe selon lequel le singe est assis sur sa branche, regarde les tigres se battre, et attend patiemment de ramasser les morceaux. Et je pense que l'attitude chinoise se situe quelque part à l'intérieur de cette représentation imagée que, comme vous le savez, les Chinois adorent.
On voit que la Chine resserre les liens avec les pays des nouvelles routes de la soie chinoise, avec les BRICS, les pays émergents, mais aussi les pays du Golfe, l'Afrique. Il y a eu cette tournée de Wang Yi en Asie du Sud cette semaine. Quel rôle a l'Europe avec ses partenaires du Sud ? Parce qu'on a vu que les BRICS étaient tous abstenus sur l'Ukraine. Est-ce qu'on ne risque pas aussi de se retrouver isolés ? Est-ce qu'il n'y a pas là un travail à faire de reconstitution des blocs, des alliances ? Côté européen ?
Alors, vous avez tout à fait raison et vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'inquiète beaucoup, qui est, au fond, un schéma dans lequel l'invasion russe nous pousse, nous les Européens, dans les bras des Américains. Les Américains et nous, on pousse Poutine dans les bras de la Chine. Et à la fin du compte, si nous gagnons, c'est les Américains qui gagnent. Et si nous perdons, c'est la Chine qui gagne. Ce schéma, dans tous les cas de figure, amène un monde qui sera encore plus divisé, encore plus cassé que le monde actuel, qui n'est pas en très bon état, y compris avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je me méfie d'une situation dans laquelle, sous prétexte que le narratif sino-russe, indien, en partie africain, vous l'avez dit, il faut regarder de près la liste des pays qui ont voté avec nous à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a la moitié des pays africains qui n'ont pas voté avec nous. Et qui, il y a donc un ressentiment anti-occidental qui est basé dans certains pays sur des faits qui tiennent à l'époque de la colonisation et de la décolonisation, mais il y a un ressentiment occidental dans ce monde dont nous devons, nous les Européens, être conscients de manière à ce que nous ne basculions pas parce que nous sommes dans cette affaire les alliés des Américains et que c'est le parapluie nucléaire américain via l'OTAN qui nous protège, nous devons veiller à ce que notre victoire, j'hésite à utiliser ce mot qui fait un peu flambard mili-mili, mais nous souhaitons tous, en tout cas c'est mon cas, que Poutine recule, que les armées russes entrent en Russie. Si nous obtenons ce résultat, je souhaite que ceci ne soit pas présenté comme la victoire de l'Ouest contre le reste. Ce n'est pas parce que le reste en veut à l'Ouest qu'il faut tomber dans une situation dans laquelle, si on gagne, ce serait l'Ouest qui gagne contre le reste. Parce que si c'est ça, le prix de désunion de ce monde à un moment où nous aurons toujours besoin de regarder ensemble les grandes questions environnementales, les grandes questions sanitaires, les grandes questions du système financier international. Si nous basculons là-dedans, nous allons vers un monde qui ira certainement plus mal qu'avant. On a eu une discussion très intéressante de ce point de vue au comité exécutif du Forum de Paris sur la paix cette semaine que je préside, avec des Indiens, des Indonésiens, des Français, des Espagnols, la fondation Aga Khan, des grands financeurs comme M. Soros. C'était évident qu'on était tous d'accord pour dire que ceci va avoir des conséquences catastrophiques pour notre planète dans tous les cas de figure, à condition que la reconstruction se fasse le plus rapidement possible, et c'est ce qu'il faudra faire. Mais d'autre part, on n'était clairement pas d'accord, on a fini par se mettre d'accord à la fin, mais on n'était clairement pas d'accord sur l'attribution des responsabilités. Pour nous, c'est très clair que c'est Poutine qui est l'agresseur pour des raisons que nous comprenons. Pour d'autres, raisons qu'a Poutine de se sentir enfermé par l'OTAN, sont convaincantes, et je trouve que de ce point de vue-là, on n'a pas été très bon.
Matteo Malik.
Oui, on a commencé à parler de reconstruction, effectivement, et pour prendre un peu de hauteur, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis qui structure le monde, on l'a dit, elle irrigue différents secteurs et elle nous invite à exhumer un ancien concept weberien qui est celui de capitalisme politique, dont on traite dans le volume politique de l'interrègne, du capitalisme politiquement orienté, c'est-à-dire d'un système, pour le dire simplement, qui repose sur le lien, l'intrication entre pouvoir politique et exigence économique. Et c'est une notion par laquelle il peut être intéressant de repasser. Selon vous, Pascal Lamy, est-ce que face à la Chine, face aux États-Unis et dans ce contexte de guerre en Ukraine, en Europe, nous devons apprendre à parler ce langage-là et peut-être investir davantage ce champ du capitalisme politique.
Oui, disons, je pense depuis très longtemps, et je m'en suis expliqué plusieurs fois dans le grand continent, que nous sommes dans un cheminement long, difficile, de l'Europe vers la puissance. Généralement à l'occasion de crises extérieures, la crise des subprimes, on a fait un pas important qui consistait à financer les États avec le budget de la Banque centrale. Le Covid, on a fait un pas important qui consiste à s'endetter ensemble, et à chaque fois d'ailleurs ce sont des tabous berlinois, allemands, hein, qui ont été franchis, et une fois, cette fois-ci encore, en livrant des armes à l'Ukraine sur un morceau de budget qui n'est pas vraiment le budget de l'Union, mais qui est tout près du budget de l'Union. Donc, ces développements se font, ils existent, Ils sont le produit de crises extérieures qui, à chaque fois, nous obligent en quelque sorte à nous raffermir. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci ? Ça va dépendre de la sortie. Il y a une sortie dans laquelle on dira l'Europe s'est à cette occasion raffermie, elle a accéléré son chemin vers l'existence géopolitique. Il y a une sortie beaucoup moins favorable pour l'Europe, qui est une Europe diluée dans l'Ouest et en l'occurrence dans l'OTAN. Donc il y a deux hypothèses possibles, comme toutes les épreuves, celle-ci en est une pour l'Europe, en plus de l'épreuve épouvantable qu'elle représente pour les Ukrainiens. Et je crois que ce que vous dites nous met dans cette direction. Alors au passage, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans le capitalisme cette fois-ci, c'est que 500 entreprises multinationales qui faisaient d'excellentes affaires en Russie pour la plupart, ont décidé de quitter la Russie. Elles ne l'ont pas fait sur injonction des gouvernements, elles l'ont fait à cause de ce qu'on appelle dans le business l'effet réputationnel. Leurs clients, leurs actionnaires, leur personnel ont exprimé une pression politique sur le comportement de ces entreprises. Elles ont souvent beaucoup hésité à se couper un bras rentable. C'est le cas, par exemple, de Renault, qui est un cas tout à fait intéressant. Renault fait d'excellentes affaires en Russie depuis très longtemps. Il y a là quelque chose dont je crois auquel il faut s'intéresser. C'est probablement la première fois que, en quelque sorte, les marchés, le capitalisme financier intervient de manière aussi forte dans une affaire géopolitique. Et d'ailleurs, si vous écoutez les gouvernements, la plupart vous disent « c'est pas moi qui décide, c'est eux ». Je crois qu'il faut être attentif à ce signal.
Carrefour de l'Europe sur RFI. Juliette Rangeval.
Carrefour de l'Europe avec notre partenaire du Grand Continent. Nous recevons Pascal Lamy de l'Institut Jacques Delors pour une émission que vous pouvez retrouver en podcast et sur les réseaux sociaux de RFI et du Grand Continent. Pascal Lamy, vous nous avez parlé de franchir des tabous du côté de l'Allemagne. Cette guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est un changement d'époque pour l'Europe. Et pour reprendre le mot du chancelier allemand Olaf Scholz dans son discours historique du 27 février dernier, Zeitwende, c'est aussi une remise en cause de la politique étrangère allemande. Je vous propose d'écouter notre correspondante Déborah Berlioz à Berlin.
Comme tous les dimanches depuis fin février, des manifestants sont réunis cet après-midi devant l'ambassade de Russie à Berlin. Christine est venue avec une amie pour protester contre l'invasion de l'Ukraine. Pour cette Allemande de 57 ans, cette guerre marque bien un changement d'époque.
C'est presque plus un pas en arrière. Nous vivons à nouveau ce que nous avons vécu pendant la guerre froide. Et quand on a grandi en Allemagne de l'Est, on sait bien ce que c'était la guerre froide. Donc oui, on peut parler d'un changement d'époque.
Un changement d'époque, ou Zeitenwende en allemand. Ce mot est revenu à plusieurs reprises dans le discours d'Olaf Scholz devant le Parlement le 27 février dernier. Pour Jacob Ross, c'est un discours historique. Ce politologue de 30 ans travaille pour l'Institut allemand de politique étrangère.
Monsieur Scholz accepte et adopte aussi une vision des choses qui dit que la puissance militaire, y compris en Allemagne, fait partie de la politique étrangère.
La dissuasion militaire ne fait en effet pas partie de l'arsenal traditionnel de la politique étrangère allemande. Ici, on compte plus sur les échanges commerciaux pour garantir la paix. C'est le credo du Wandel durch Handel, le changement par le commerce. Il faut dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, une bonne partie de la population allemande nourrit une certaine défiance envers son armée. Résultat, l'armée allemande a été négligée. Manque de gilets pare-balles pour les soldats postés au Mali, moins de 50% des hélicoptères opérationnels, le mauvais état des troupes défraye souvent la chronique ici. Par ailleurs, la guerre montre bien les limites de la coopération économique. Selon Sarah Nani, l'Allemagne aurait dû le réaliser plus tôt. Elle fait partie de la fraction écologiste au Bundestag.
Le changement par le commerce ne peut pas fonctionner quand la dépendance est asymétrique, comme c'est le cas avec le gaz russe pour l'Allemagne. Il aurait donc fallu que le projet de gazoduc Nord Stream 2 soit enterré dès 2014.
Ce n'est qu'après l'invasion de l'Ukraine le 24 février que l'Allemagne s'est résolue à prendre de sérieuses sanctions économiques et donc à stopper ce gazoduc russe. Sarah Nani soutient les mesures annoncées par le chancelier, tout comme l'ensemble de la fraction écologiste. Toutefois, elle estime que la posture allemande, critique envers l'armée, est plutôt saine. Mais cette défiance ne doit pas amener à refuser la force militaire, juste à bien la contrôler.
La plus grande différence entre l'Allemagne et la France en matière de politique étrangère et de sécurité est que l'armée française est placée directement sous la responsabilité du président. Et donc, ses interventions sont très peu débattues au Parlement. En Allemagne, nous avons une armée parlementaire. Cela signifie que toutes ces interventions doivent être discutées et approuvées par les députés.
Dans tous les cas, il ne suffit pas d'investir plus d'argent pour avoir une armée puissante. Des réformes structurelles sont également nécessaires. Le changement d'époque annoncé par Olaf Scholz risque donc de prendre un peu de temps.
Pascal Lamy, vous y avez fait rapidement allusion tout à l'heure. Quand l'Europe change, c'est toujours l'Allemagne qui donne l'impulsion, finalement ?
Bah, c'est pas normal. Hein. Je veux dire, c'est l'encre allemande qui bouge. Et il est assez naturel que, compte tenu de l'extrême importance relative de l'économie allemande, de sa position géographique dans l'Union des Européens, il est assez naturel que l'encre allemande, qui a beaucoup, beaucoup marqué la construction européenne dans sa philosophie économique. La philosophie économique allemande, c'est l'ordolibéralisme. C'est-à-dire une économie sociale de marché avec des règles, une intervention limitée de l'État, de bons systèmes sociaux, mais l'initiative privée doit être à la manœuvre en permanence. C'est une bonne économie qui fait une bonne politique. Et vous reconnaissez là exactement l'inverse de ce que traditionnellement pensent les Français. Les Français pensent que la bonne politique fait la bonne économie. Donc, il est intéressant de constater effectivement qu'à chaque fois, ça a bougé. Sur le point du réinvestissement dans la défense et dans la chose militaire des Allemands, je crois que ce qui a été dit est très juste. Ça prendra beaucoup de temps. Hein, dans l'état dans lequel est l'armée allemande aujourd'hui, reformer une armée efficace, opérationnelle, capable de se battre sur des champs de bataille modernes, c'est 10 ou 15 ans. Hein. Ce n'est pas juste de dire on met 50 milliards de plus dans le budget, c'est tous les militaires vous diront que les capacités sont des choses qui proviennent de formation, d'entraînement, de manœuvre. Bien. La grande différence, elle a été donnée à juste titre, la grande différence entre la France et l'Allemagne en matière militaire, c'est que nous avons l'arme nucléaire. La raison pour laquelle, en France, c'est le chef de l'État qui est le chef des armées et qui prend l'essentiel des décisions de ce que font les armées françaises, c'est que c'est lui qui a l'autorité sur le bouton nucléaire, qui est l'arc de voûte de toute la conception militaire française. C'est pas forcément ce qu'on voit au Mali, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les troupes françaises qui sont avec celles de l'OTAN dans les pays baltes ou en Roumanie, mais ça reste philosophiquement, idéologiquement, l'essentiel. Et ça dit que dans le cheminement vers l'Europe de la défense, qui je crois est en marche, encore que probablement plus lentement que beaucoup d'entre nous ne souhaiterions pour des tas de raisons bien compréhensibles, la différence fondamentale qui est que la France a une arme nucléaire qu'elle peut utiliser sous forme dissuasive est encore sur le chemin d'une union de défense franco-allemande.
Mathéo Malik du Grand Continent.
Alors effectivement, nous, dans une pièce de doctrine parue récemment dans les colonnes du Grand Continent, en réaction à la publication d'ailleurs du volume papier, le haut représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères, Josep Borrell, formule un diagnostic qui fait écho à ce que vous venez de dire, et qui dit, je cite, « Nous naviguons toujours dans l'interrègne, mais nous pouvons déjà dire que la guerre d'Ukraine de 2022 a vu la naissance tardive d'une union géopolitique. » Et il poursuit, « Il est temps de faire de l'Europe un hard power, c'est-à-dire une puissance militaire à part entière, à même de défendre ses frontières. On voit donc que l'opportunité est là, il n'est pas pas seul à le dire. Mais la question qui se pose finalement, c'est de comment l'inscrire dans la durée. Et à cet égard, le sommet de Versailles a peut-être d'ailleurs suscité des attentes trop grandes et trop prématurées. De manière intéressante, et c'est sur cela peut-être que nous aimerons vous entendre, Pascal Lamy, Borrell fait un parallèle avec le lancement de l'euro, des moments comme le lancement de l'euro ou le plan de relance, c'est-à-dire des moments où finalement le choix de la non-Europe est devenu plus coûteux que celui de la mise en commun. Est-ce que sur la défense aussi, il ne faudrait pas raisonner en ces termes, finalement, pour faire bouger les lignes rouges ?
Non, c'est effectivement une très bonne question. Pepe Borrell est un ami proche depuis très très longtemps, bien avant qu'il vienne aux représentants. En l'occurrence, dans cette interview, ce texte qu'il a donné au Grand Continent, je le trouve un petit peu lyrique. Hein. Il a raison de situer ce moment dans un cheminement de l'Europe vers la puissance. Je suis tout à fait d'accord avec cette conception. Mais la puissance, c'est une affaire d'idéologie. Hein, et de ce point de vue-là, ce qu'il a appelé le compas stratégique, c'est-à-dire le texte qui énonce les menaces, la hiérarchie des menaces sur lesquelles les Européens sont d'accord pour ensuite baser une politique étrangère de sécurité et de défense. Il n'y a pas de politique de défense sans politique de sécurité. Il n'y a pas de politique de sécurité sans politique étrangère. Je trouve qu'il a raison. Il sous-estime un petit peu la question des capacités. Hein, la puissance, c'est une volonté, c'est une conception de ce qu'on veut faire, de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de mal dans ce monde, et de valeurs et d'intérêts. Encore faut-il avoir les capacités, et il faut reconnaître que là, on vient d'en parler d'ailleurs sur la partie militaire, et ça n'est pas la seule qui compte, la partie économique, la partie technologique, la partie culturelle compte beaucoup, mais en matière de capacités, il reste encore beaucoup de chemin à faire, et là ce sont encore une fois les années qui viennent qui diront si cette espèce d'accélération que Pepe Borrell appelle de ses voeux, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, si effectivement on marche la parole, comme disent les Américains, et il faut voir le talk.
Avant l'invasion de l'Ukraine, Pascal Lamy, alors même que les Russes occupaient la Crimée, se battaient dans le Donbass, c'était encore de bon ton hein, dans certains partis politiques d'afficher son admiration pour Vladimir Poutine. Depuis un mois, avec l'horreur de l'actualité ukrainienne, beaucoup font marche arrière. On va écouter Franceline Beretti, qui les a observés pour son œil européen.
Beaucoup des réseaux sociaux de nos responsables politiques se sont peints en bleu et en jaune. Pour certains, c'est cohérent. Pour d'autres, c'est un opportunisme éhonté. Matteo Salvini, par exemple, promulgue la paix en Ukraine sans jamais nommer Moscou, la Russie, Poutine. À lire le chef de la Ligue, les destructions et les morts sont une calamité tombée de nulle part, comme les grenouilles dans les 10 plaies d'Égypte. Alors j'exprime ma gratitude à Wojciech Bakun, même si j'écorche son nom. C'est le maire de Przemyśl, en Pologne. Il a reçu Matteo Salvini il y a 2 semaines, quand l'Italien est venu jouer les bons samaritains auprès des Ukrainiens. Pendant leur conférence de presse, Bakun prend Salvini par surprise en sortant un t-shirt à l'effigie de Poutine, le même t-shirt que portait Salvini lors d'une visite à Moscou en 2015.
Je voudrais aller avec vous, sénateur Salvini, à la frontière et dans les centres de réfugiés, voir ce qu'a fait votre ami Poutine, voir ce que celui que vous décrivez comme votre ami a fait.
Sorry.
Vous entendez le son de l'humiliation ? Ça fait du bien, Salvini prie à son propre cirque médiatique, parce que dans les pro-Poutine, c'est le plus outrancier. Mais il est loin d'être le seul en Europe. Du côté de l'extrême droite, il y a de quoi faire. Entre le Vlaams Belang en Belgique, Le Pen ou Zemmour en France, l'AFD en Allemagne ou le FPE en Autriche, il y a la complaisance de l'extrême droite et celle de l'extrême gauche, admirative d'un pays qui tient tête aux États-Unis. Comme le Parti des travailleurs belges, le PTB a dénoncé l'invasion russe en Ukraine tout en précisant que c'est l'OTAN qui a commencé. Ça n'a pas plu à l'ancienne première ministre, Sophie Wilmès.
Vous participez ainsi, monsieur, à la propagande russe. Alors peut-être que dans votre parti, ça vous fait plaisir, mais moi, j'ai honte.
Les méchants extrêmes complaisants avec les méchants dictateurs, ça serait si simple. Mais le monde est complexe et un des plus grands alliés de Poutine en Europe, C'est lui.
Il désignait Poutine comme un ami et le considérait comme un démocrate. Il a été autorisé à adopter 2 enfants russes. Il travaille depuis des années pour 2 compagnies énergétiques russes, Rosneft et Gazprom. Chez Vladimir Poutine, Gerhard Schröder est toujours assis au premier rang.
Gerhard Schröder, le chancelier allemand d'avant Merkel, figure de la social-démocratie. Schröder qui n'a toujours pas renoncé à ses postes lucratifs dans les conseils d'administration russes, alors que le cupide François Fillon a dû lâcher les siens. À la décharge de Schröder, toute la classe politique et économique allemande, et pas que, a été d'une incroyable complaisance avec le régime russe ces dernières années. Naïveté ou cynisme de la realpolitik ? Un peu de cupidité aussi, peut-être. Quand on voit la facilité avec laquelle certains pays européens vendent à des Russes une nouvelle nationalité ou un visa, difficile de faire des leçons de morale aux extrêmes.
Une guerre pour défendre la démocratie, les valeurs européennes, et pourtant on vient de l'entendre, Pascal Lamy, ces valeurs n'ont pas toujours été portées par les Européens eux-mêmes hein, face à la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire du côté des Européens aussi ?
Il y a toujours un peu d'hypocrisie dans les relations entre États, voire dans les relations entre personnes. Mais attention, ça n'est pas, je réagis sur ce que vous venez de dire, ça n'est pas le combat des démocraties contre les régimes illibéraux et autoritaires. Nous avons de notre côté, dans cette affaire, des régimes illibéraux, et les autres, en quelque sorte, ceux qui n'ont pas voté avec nous à l'ONU, il y a un certain nombre de démocraties de ce côté-là. Hein, donc attention, encore une fois, à ne pas tomber dans une représentation de ce qui est en train de se passer, selon lesquelles ce sera la victoire des démocraties contre les régimes autoritaires. Soyons conscients. Nous, Européens, et de ce point de vue-là, on a de bonnes raisons de l'être plus que les Américains, pour qui, finalement, cette affaire ukrainienne est assez loin dans l'opinion américaine. Bon, il y a des circonscriptions dans lesquelles il y a des Ukrainiens, aux États-Unis, bien entendu, comme il y en a au Canada, mais ça, pour nous, c'est beaucoup plus crucial. Donc, attention à ne pas transformer ce qui est en train de se passer dans la bataille finale entre la démocratie et les régimes autoritaires. Je suis à fond pour la démocratie, je déteste un certain nombre de régimes autoritaires. Pour autant, cette planète doit, après ce conflit, lorsque probablement nous les Européens, nous aurons à mettre la main à la poche pour reconstruire l'Ukraine, ce qui est d'ailleurs une bonne manière de répondre aux souhaits européens des Ukrainiens. Hein, on a vu tout ce débat sur ce qu'il faut que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. De mon point de vue, on a fait plus le jour où on a branché le réseau ukrainien sur le réseau européen il y a 15 jours. On a fait plus pour l'Ukraine que...
le réseau électrique, hein, vous voulez.
De savoir. Absolument, absolument. C'est un peu passé inaperçu, mais c'est quelque chose de très très important dans l'arrimage, en quelque sorte, du système énergétique ukrainien au système européen. Ça vaut bien 2-3 jours de discussion au Conseil européen sur est-ce qu'il faut adhérer, quand, comment, maintenant. Je trouve qu'il faut s'intéresser maintenant à ces choses concrètes.
Matteo Malik, très rapidement.
Oui, peut-être pour une dernière question, Pascal Lamy, vous avez beaucoup réfléchi, y compris plusieurs fois dans les colonnes du Grand Continent, à ce que pourrait être une anthropologie européenne en essayant de repartir des sciences sociales pour refonder le projet politique. Et la séquence que nous vivons nous y invite. Vous disiez d'ailleurs récemment à Gilles Gressani, qui ne peut pas être là aujourd'hui, le directeur du Grand Continent, que les Européens, pour s'unir, devaient partager non seulement des rêves, mais aussi des cauchemars. Et il semble que nous y sommes en ce moment. J'aurais voulu rapidement vous faire réagir à un autre papier publié dans Politique de l'Interrègne, celui-là de Ivan Krastev, assez lumineux, où il identifie, après la pandémie, finalement, des nouveaux clivages en Europe qui sont des clivages des imaginaires. Est-ce que, selon vous, cette guerre, ce moment qu'on traverse, pourrait réactiver ce choc des imaginaires ? Est-ce que c'est un risque ?
Vous avez 20 secondes pour y répondre.
Pour dire que j'admire énormément Ivan Krastev, je suis pour autant pas toujours d'accord avec lui, mais je maintiens le point que vous avez souligné, selon lequel il n'y aura pas d'union des Européens sans une certaine forme de convergence de leurs imaginaires. Et il est probable que Poutine est en train de nous donner quelque chose de commun dans notre imaginaire qu'on n'avait pas forcément. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une fois de plus, il se tire une balle dans le pied.
Merci Pascal Lamy, c'est la fin de cette émission de Carrefour de l'Europe en partenariat avec Le Grand Continent, à la réalisation Ludivine Amado et Claude Battista. À bientôt.